Les secrets des amis de Versailles.
Panorama 4, la tornade Marie-Antoinette.
Démontez-moi tout ça.
Où l'on apprend que les Anglais n'aiment pas les lignes droites.
En 1775, Marie-Antoinette, 20 ans, est bien ennuyée. Un an auparavant, elle a reçu en cadeau le domaine de Trianon. Joli cadeau, n'est-ce pas ? Hélas, les lieux ne correspondent ni à son goût, ni à la mode. Ces jardins aux tracés rectilignes, cette symétrie partout, et ces parterres si français, qui en sont d'ailleurs les inventeurs, cela ne lui convient pas du tout. La reine veut en finir avec le style vieillot de ce parc. Des travaux sont donc lancés pour tout accorder à la nouvelle mode. On sacrifie même les serres du jardin botanique. Marie-Antoinette ne s'intéresse pas aux plantes rares qu'on peut y trouver. Il lui faut une nature vivante et pittoresque. Rien ne doit être emprisonné ou aligné. La reine a soif de liberté et elle entend mener sa vie dans un jardin à son image. On creuse une rivière. On plante des centaines de saules dans le parc, ainsi que des milliers d'arbustes non taillés. Mais attention, tout doit avoir l'air naturel, comme si la main de l'homme n'était pas intervenue. Champs, cascades, rochers, rien ne manque à ce jardin champêtre. C'est ce qu'on appelle le jardin à l'anglaise, qui doit être irrégulier et libre. Une illusion, bien sûr, puisque cette imitation de la campagne est totalement artificielle. Aucune importance. Au terme des travaux, la reine est ravie. Elle est tellement fière de son jardin qu'elle offre des tableaux le représentant à ses invités. Mais ces jardins à l'anglaise font cependant un mécontent. Louis XVI, horrifié par le coût des 2 années de travaux, ne se présente même pas à leur inauguration.
Pour documenter cette histoire des jardins de Versailles, le château a acquis un dessin du premier projet d'aménagement des jardins anglo-chinois du Petit Trianon, commandé par Marie-Antoinette. Avec la participation des amis de Versailles, bien sûr. Ceux-ci se montrent d'ailleurs toujours plus actifs pour conserver la splendeur des jardins de Versailles. Ils ont adopté 3 bancs dans le jardin français du Petit Trianon et des tulipiers du bosquet de la Reine.
En kit.
Où l'on doit tout changer en toute discrétion.
Nous sommes en 1779. Cela fait maintenant 5 ans que Marie-Antoinette est coiffée de la couronne de France. Pourtant, lorsqu'elle se choisit un ouvrage à lire, elle le fait dans les rayonnages de sa bibliothèque de Dauphine. Cette pièce était parfaite pour l'épouse d'un prétendant au trône, d'accord, mais pour une reine de France. Marie-Antoinette est formelle, ce décor n'est plus à la hauteur de son rang. Il faut tout changer. Plus facile à dire qu'à faire, car la reine impose une sérieuse contrainte. Elle refuse de se priver de lecture sous prétexte de travaux. Le chantier devra avancer durant ses absences. Hélas, ces déplacements hors de Versailles ne sont pas si fréquents. Alors comment satisfaire la souveraine ? C'est là que le génie des artisans français entre en scène. Bien avant nos magasins de bricolage et autres enseignes de meubles à monter soi-même, ils conçoivent une bibliothèque royale en kit. Ainsi, ils peuvent soigner le travail en atelier sur des éléments qui, une fois prêts, n'auront plus qu'à être montés dans les appartements de Marie-Antoinette. Des feuilles d'or sont par exemple appliquées sur chaque moulure, sans bousculer les habitudes littéraires de la reine. Au fait, comment savons-nous tout cela ? Grâce à ces talentueux artisans qui ont laissé des indices très révélateurs. Des indices que les restaurateurs ont eu récemment la surprise de découvrir en démontant la bibliothèque. Derrière le travail précis et délicat que tout le monde admirait depuis plus de 2 siècles, surprise, ils ont trouvé un montage grossier. Impossible en effet de fixer une porte d'armoire à distance. Ces dernières opérations se menaient chez la reine, dans l'urgence, afin de ne pas la déranger trop longtemps.
Cette campagne de restauration que la Société des Amis de Versailles a financée n'a donc pas seulement gommé le passage du temps. En se mettant dans les pas, ou plutôt dans les mains, des artisans du XVIIIe siècle, les restaurateurs d'aujourd'hui ont fait un voyage dans l'histoire des savoir-faire.
Pour l'intérêt de la France, où l'on apprend que Marie-Antoinette passe après la diplomatie.
La reine Marie-Antoinette n'est pas patiente. Quand elle désire quelque chose, elle le veut tout de suite. La manufacture de Sèvres le sait bien. Lorsqu'en 1784, elle reçoit la commande d'un service en porcelaine de plus de 200 pièces, elle se met donc très vite à l'ouvrage. Pourtant, un imprévu va contrarier la souveraine. Alors que le service est prêt à être livré, le roi de Suède Gustave III effectue un séjour imprévu à la cour de France. Il faut lui offrir un cadeau à la hauteur de son rang, Louis XVI ne peut pas y couper. Sacrifiée sur l'autel de la diplomatie, Marie-Antoinette voit donc son service en porcelaine à décoration riche en couleurs et riche en or lui filer sous le nez. Heureusement, elle n'attend pas longtemps, car la manufacture se remet aussitôt à l'ouvrage. Redoublant d'efforts, les artisans livrent un nouveau service 2 mois plus tard. Mais l'urgence ne les a pas incités à bâcler le travail. Le décor, finement peint à l'émail rehaussé d'or, reprend les demandes initiales de Marie-Antoinette. Ce second service est donc très proche de la vaisselle offerte à Gustave III. Les porcelaines du roi de Suède et de la souveraine de France posent ainsi un problème inédit. Au gré des ventes, ces services ont été dispersés. Parfois, un élément ressurgit, comme ce très beau pot à jus acquis pour le château par les amis de Versailles. Et dans ce cas, difficile de dire s'il provient de la première ou de la deuxième commande. Cette très belle pièce comporte cependant la marque du peintre Bouillat. Voilà l'indice qui permet de résoudre le dilemme. L'artiste a signé le décor de 12 pots à jus au moment de la première commande. Bien que Marie-Antoinette ne soit plus là pour en profiter, une partie de la porcelaine qui lui était destinée, mais avait finalement pris le chemin de la Suède, a réintégré sa demeure.
Les amis de Versailles continuent de traquer les pièces de ces deux services, riches en couleurs et riches en or de la manufacture de Sèvres, pour en faire l'acquisition et les présenter au château. Après ce pot à jus acquis en 2008, ils ont de nouveau enrichi la collection d'un second pot, acheté conjointement avec le Forum Connaissance de Versailles. Et pour toujours mieux éclairer le travail des artisans d'art de la manufacture de Sèvres, les amis de Versailles ont favorisé le don d'un sucrier de la comtesse d'Artois par la société Guerlain.
Laissez-moi tranquille !
Où l'on apprend que Marie-Antoinette détruisait des escaliers.
Nous sommes en 1781. Marie-Antoinette est fatiguée de la cour et de ses intrigues. À Versailles, sa vie se déroule sous les yeux du public. Pas moyen d'avoir un peu d'intimité. De guerre lasse, la reine souhaite avoir une pièce dans laquelle elle pourra se reposer seule. Pour son architecte Richard Mick, le défi est de taille. Comment aménager un tel endroit dans l'enchevêtrement des appartements du château? La solution? Transformer une pièce déjà existante. Mick n'a pas eu d'autre choix que de détruire l'escalier situé derrière la chambre de Marie-Antoinette. L'espace ainsi dégagé n'est pas très grand, à peine 10 mètres carrés. Cela suffit tout de même pour aménager un petit cabinet et satisfaire la reine. Mick ne manque d'ailleurs pas d'idées. Les glaces qui réfléchissent la lumière améliorent l'éclairage de cette pièce sur cour, orientée au nord, et donnent l'impression que le boudoir est beaucoup plus grand. Quant à Marie-Antoinette, elle choisit elle-même la décoration. Les boiseries sont sculptées de cœurs percés de flèches, une manière de célébrer son bonheur conjugal alors qu'elle s'apprête à donner un fils au roi. Mais la reine fait surtout de cet endroit un véritable refuge. Seules ses belles-sœurs y sont conviées. L'intimité dans cette pièce est telle qu'elle prend le nom de méridienne, comme la sieste de la mi-journée. Voilà enfin un peu de tranquillité.
Alors, l'ancien escalier a-t-il vraiment disparu sans laisser de traces? Pas vraiment, car lors des travaux de restauration entrepris en 2012 grâce au mécénat de la Société des Amis de Versailles, au-dessus du plafond, les décors sculptés de l'escalier ont refait surface. La restauration a permis la renaissance de ce joyau, rendant ainsi hommage au savoir-faire des artisans du XVIIIe siècle et favorisant la transmission de leur art.